majesté et la splendeur sont devant sa face et la force et la joie sont dans sa demeure. Est-ce que nous sommes au bon endroit pour avoir la force et la joie? Amen! Nous sommes dans sa demeure. Néhémie, chapitre 8, verset 10, nous dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et des fois, on sous-estime. Et je dis « Je choisis la joie. » Mais quand on est des femmes de foi, nous devrions choisir la joie. Amen! Colossiens, chapitre 1, verset 11 nous dit « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez quelquefois, parfois, toujours, et avec « Oh, Dieu est beau, mais Dieu! » avec joie, persévérant et patient. Des fois, on est persévérante et patiente, mais on oublie la joie. Amen! Romains, chapitre 14, verset 17 nous dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. » Et souvent, on recherche la paix, mais on oublie la force de la joie. La joie, c'est un fruit de l'esprit, comme vous savez, Justine a parlé comme les fruits que nous devons avoir. Galates 5, 22 nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Le psaume 126, 3 nous dit, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, alors nous sommes dans la joie. » Est-ce que Dieu a fait de grandes choses pour vous? Juste aujourd'hui, est-ce que Dieu vous a touché aujourd'hui? Alors déjà, vous devez être dans la joie. Mais est-ce que Dieu vous a sauvé? Dieu vous a racheté? Dieu vous a fortifié? Dieu vous a lavé de tous nos péchés? Il a condamné à la croix l'acte qui nous condamnait. Il a cloué à la croix. Toute la honte est enlevée. Toute la culpabilité est enlevée. Et on peut être dans la joie parce que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Mais des fois, malgré que nous savons dans notre esprit, toutes ces choses, tout ce que Dieu m'a guéri, Dieu a agi dans ma maison, il arrive des fois que c'est quand même difficile de choisir la joie. Si vous mettez la prochaine diapositive, regardez, c'est comme ces enfants-là, ils veulent choisir la joie. J'ai choisi la joie! Et on est d'accord que c'est pas toujours facile de choisir la joie. Et la Bible est tellement un miroir qui nous comprend, qui nous révèle le cœur de Dieu. Le psaume 31:8 nous dit « Je serai », c'est tellement beau, si vous prenez des notes, gardez ce verset-là, « Je serai par ta grâce ». Et comme Justine a dit, c'est la grâce de Dieu. Si tu essayes en sortant d'ici, « Oh, je choisis la joie, je choisis la joie. Je suis heureux, je choisis la joie. » Parce que la Bible parle de la joie. Mais malheureusement, on n'est pas capable, on veut. Mais ça dit, par la ta grâce, dans l'allégresse et dans la joie, car, pas juste quand tu me fais du bien, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et c'est tellement puissant que le psalmiste, même dans l'anxiété, même dans l'angoisse, dans les nuits d'insomnie, dites amen avec moi si vous avez 50 ans et plus, lorsque tu as la difficulté à dormir et qu'il fait chaud, n'est-ce pas? Quand je sais, les anges, Justine, tu sais pas de quoi je parle, trop jeune. Mais quand Dieu, dans ces moments d'anxiété, de tempête, de saison d'hiver, il y a la grâce de Dieu qui peut nous donner la joie. Il y a des pièges de la joie. Savez-vous, il y a des pièges, des classiques de la joie. Moi, je suis un docteur en biochimie, j'étais à l'université pendant 12 ans. Et tout le long de mes études, je me disais, je vais avoir la joie quand je vais avoir terminé mes études. Si vous êtes étudiants dans ce lieu, les jeunes, tu vas avoir la joie quand je vais avoir fini l'école. Puis après ça, je suis rentrée dans le ministère et toute mon école ne m'a pas servi, voyez-vous? Fait que des choses que je pensais qu'elle allait m'apporter la joie, ne m'a pas apporté la joie. Par exemple, je vais être dans la joie quand je serai dans le ministère, quand je vais accomplir le rêve, le plan de Dieu, des choses que Dieu me demande à faire, parce que chacune d'entre nous, on n'aura pas le temps d'en parler cet après-midi, on est appelé à accomplir des choses. Et moi, j'avais ce désir-là à l'âge de 15 ans, et je suis entrée à temps plein dans le ministère à 39 ans. Voyez-vous? Alors, si j'avais attendu ça pour avoir la joie, j'aurais été malheureuse vraiment très longtemps. C'est des pièges. Ah! Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce lieu? Identifiez-vous. Allez, amen. Allez. C'est dommage, il n'y a pas d'hommes dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires? Bon, je ne m'aventurerai pas là. Je ne regarde rien. Je ne dis rien. Vous êtes d'accord qu'on se dit toujours, je vais être dans la joie quand je vais me marier? Amen? Non? Bon, soyons honnêtes. Il y en a beaucoup qui vont dire. Moi, j'apporte la parole au groupe de jeunesse et croyez-moi, oui, ils ont hâte de se marier. Et quand on est marié, des fois, on se dit, je serais dans la joie si j'étais moins mariée. OK, ça va. Je parle pas de moi, parce que moi, il est idéal, le mien, mais pour certains, hein. Je vais être dans la joie quand je vais avoir des enfants, quand on regarde un petit bébé mignon comme ça. Oh, tout mignon, Seigneur, j'ai hâte d'avoir un des enfants, sentir la maternité en moi, n'est-ce pas? Et quand ils sont adolescents et que tu passes par la fournaise ardente, tu dis, Seigneur, que je vais dans la joie quand ils vont partir de la maison. Amen! La joie, c'est vrai, la joie, mais la vraie joie. La joie, le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Il ne faut jamais attendre d'arriver à destination pour dire « là, je vais être heureuse ». C'est la façon dont vous allez marcher dans la vie qui pouvait être, vous allez décider de marcher dans la joie. Et Kay Warren, si vous connaissez le pasteur Rick Warren, c'est celui qui a écrit « Une vie, une passion, une destinée », le livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Vous savez, ce couple-là a perdu un enfant, jeune adulte, de façon tragique. Et à travers toute cette saison-là difficile, le jeune garçon est mort. Et elle a écrit un livre qui parle de la joie. Et dans ce livre-là, et j'ai pris la citation parce que ça m'a tellement touchée, Kay Warren, elle parle qu'est-ce que c'est la définition de la joie pour elle. Elle dit « La joie est une conviction profonde que Dieu est en contrôle de toutes les situations et détails de ma vie. C'est cette assurance qui me permet de croire qu'ultimement, tout va bien se terminer. La joie est un choix déterminé. Ce n'est pas une émotion, je le sens. Le choix déterminé qui nous donne la force de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Et quand je dis « je choisis la joie », on rigole, ça fait du bien, on est ensemble, mais vous comprenez très bien que la joie, c'est pas rire à des blagues, puis à se rouler, puis on peut dire ça, se bidonner, si on peut, ça se dit, ça va, je veux pas être choquante comme Justine, moi, qu'est-ce que tu veux? Mais vous savez, on parle de joie, c'est comme si rigoler tout le temps, faire des faces, c'est bon et c'est sain. Mais je vous parle d'une joie qui est sincère à travers les épreuves de la vie. Et il est possible, par la grâce de Dieu, d'avoir cette joie-là. Il y a des voleurs de joie. Et tantôt, on va prier pour ceux, par exemple, quand on souffre dans notre corps. J'ai parlé avec plusieurs sœurs tout à l'heure. Et ils ont une maladie. Quand tu as mal, à quelque part dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, c'est difficile. C'est un voleur de joie, la douleur. Les gens, la critique, le murmure, les gens autour de nous, au boulot, qui peuvent nous juger pour notre foi, c'est un voleur de joie. Les pressions de la vie, les pressions financières, l'argent ou le manque d'argent, vous êtes avec moi? Est un voleur de joie. Les problèmes de toutes sortes, nous-mêmes, je n'irai pas dans le détail, mais vous savez, des fois, on a l'impression, si tu prépares ma diapositive, qu'on a le monde entier sur nos épaules. Regardez, ça ne vous est pas arrivé? Des voleurs de joie, c'est vrai. Il y a des jours, tu as l'impression que tu as le monde entier sur tes épaules. Et bien souvent, des fois, on parle d'un voleur de joie. Bien souvent, il y a l'ennemi, bien sûr, qui vient nous voler notre joie, qui vient nous attaquer dans nos pensées. Mais un des voleurs de joie, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes par nos pensées, par notre culpabilité, la culpabilité qui provient de nos actions. Lorsqu'on se sent coupable constamment comme femme, et c'est tellement féminin de se sentir coupable, on n'est pas une mère assez à la hauteur, une épouse à la hauteur. Vous savez, c'est dans un monde de performance aujourd'hui. Il faut, avec toutes les images qu'on a à la télévision, la taille, le ci, le ça, une mère, il faut que tu manges bio, ils ont des casques, il faut que tu fasses attention, ils ne peuvent plus manger de McDonald's ici. Parce que non, mais c'est vrai, on a une pression de toutes sortes comme épouse, d'être une bonne épouse au boulot. Et des fois, les femmes, on ne se sent pas à la hauteur et on se sent coupable. Et il y a une saine culpabilité. Quand je fais mal, le Saint-Esprit me parle et je peux me détourner de mes voies. C'est une saine culpabilité et c'est biblique et c'est bien. Mais je vous parle d'une culpabilité qui revient sans cesse et qui revient et tu repasses des choses du passé et tu te sens coupable. Et le Seigneur, je crois vraiment, cet après-midi, il veut briser cette chaîne, casser ce verrou. Ça dit, si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et on n'est pas des parfaites, on n'est pas des superwomen, on est des femmes qui ont besoin de Dieu et qui brisent cette culpabilité-là. Il a dit qu'il a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait complètement. Alors arrêtons de retourner. Quand je confesse mes fautes, c'est du passé et c'est terminé. Et je le dis avec autorité pour certaines femmes ce matin, prends-le par la foi, c'est terminé. Il n'y a pas de passé trop lourd, il n'y a pas d'acte trop noir que Dieu ne peut pas pardonner et effacer. Comme cette prostituée Rahab, Dieu l'a pris, l'a choisi et l'a emmené dans une destinée éternelle. La honte, et je ne développerai pas non plus, la honte, des fois, c'est un voleur de joie. La honte, la culpabilité, c'est lié à une action. J'ai fait quelque chose. La honte est liée à quelqu'un, quelque chose qui a fait quelque chose sur moi. La honte d'avoir été abusée, la honte d'avoir été trompée par un mari, la honte de toutes sortes. Il reste que quelques minutes, je ne le développerai pas, mais quand on se sent honteuse, on se sent sale, souvent on se sent rejetée. C'est un voleur de joie. Le Seigneur, aujourd'hui, quand je dis « je choisis la joie », je choisis de me voir comme Christ me voit. Je suis une princesse. On le dit souvent, mais c'est vrai que tu es une princesse, la fille du roi des rois, un sacerdoce, une nation sainte rachetée à un grand prix. Et c'est peu importe ce que les hommes t'ont fait ou que les hommes t'ont dit, c'est comment Dieu te voit. Et Dieu te voit plus blanc que neige. Et Dieu te voit pure et belle. Tu es sa fiancée. Rachetée à un grand prix. Amen. Ça, c'est des voleurs de joie. C'est juste une introduction, Raymond, fais-toi-en pas. On devrait finir vers 7 heures ce soir. Ça vous va? Raymond, elle m'a dit que c'était parfait, puisque non. Et juste pour vous donner, en terminant, deux clés pratiques. Comment je vous ai fait les pièges de la joie, les voleurs de joie, mais deux clés pour garder ma joie. Un, je ne développerai pas le premier point parce que je vais me concentrer sur le deuxième. Mais le premier point, je prends la décision de choisir la joie. Cette décision-là se fait à tous les jours. Chaque matin, tu peux, en te brossant les dents, peu importe ta circonstance, et j'ai dit, ce n'est pas une destination, c'est une façon de voyager, je peux te dire, Seigneur, ce matin, par ta grâce, je choisis la joie. Il y a plein d'exemples dans la Bible de Josué. Justine nous parle un peu. Josué, face à sa muraille et son impossibilité, a crié, a dit, poussons des cris de victoire. Il n'a pas attendu que la muraille soit à terre, beaucoup plus facile. Il a déclaré la victoire même s'il ne voyait rien. La tsunamite, on aura l'occasion d'en parler, on avait parlé à Aix, la chambre de la douleur. Cette femme-là avait perdu tout ce qu'elle avait de plus précieux. Mais au lieu de rester dans la douleur, elle aurait pu. Elle aurait pu. Mais elle a dit à son mari, tout va bien. C'est un choix. Alors, un, prends la décision de choisir la joie. Et deux, la clé la plus importante aussi, c'est je perçois ma situation comme Dieu la voit. Peut-être que je reviens un peu sur la pensée de ce matin. Les pensées de Dieu sont au-delà de vos pensées. Et il n'y a rien qui arrive. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Einstein a dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Alors, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et il faut regarder, on va regarder à Paul. Paul, lorsqu'on parle de la joie, c'est l'épître de Philippiens. Vous savez, c'est là qu'on retrouve au chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Amen. Et dans Philippiens 3, 1, il dit, « Au reste, mes sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela, est salutaire. » Et lorsque tu parles, tu regardes à l'épître de la joie. Vous savez, dans cette épître-là, tu as l'impression que Paul a écrit ce texte-là pendant qu'il était au plus beau moment de sa vie. Juste dans l'épître aux Philippiens, on retrouve dans ce livre-là 17 fois le mot « joie » et « se réjouir ». Moi, hier, j'ai fait une balade sur la promenade des Anglais et j'étais dans la joie, n'est-ce pas? C'était tellement magnifique et je trouve ça bien que Martine soit là. Quand j'ai été à Tahiti à porter la parole là-bas, te souviens-tu? On nous a offert, si tu mets la diapositive, regardez, moi, j'ai dit au Seigneur, je te suivrai où tu veux, j'irai. Bon, il y a cette île que vous ne connaissez pas dans le grand froid canadien, mais il y a Tahiti, et Dieu m'a emmené là. Et il y a une femme, après, on avait bien travaillé, tu te souviens, puis la journée de congé, Martine m'a demandé d'aller dans une petite île pour finalement, après ça, on avait une journée de vacances, et on est allé sur une magnifique île, et là-bas, imaginez, quelqu'un nous avait offert un logement, et moi, ça sentait de côté jardin, et quand on est arrivé là, pour une raison qu'on ignore, on a été bénis, hein, Martine s'en souvient, et nous avons eu le droit à la maison sur pilotis, voyez-vous? Tu sais, genre, c'était quoi l'île? C'est Moréa, voyez-vous? C'est comme Bora Bora. Et le plancher était en verre. Ça ne m'est pas arrivé à tous les jours, là. Hein? C'est un hasard que Martine soit là. Et le plancher était en verre. On voyait les poissons se promener. Et pour moi, la Canadienne, c'était un rêve. Jamais dans ma vie, je pensais vivre ça. Et ça ressemblait à ça. Et quand tu regardes l'épître de Philippiens, réjouissez-vous, la joie, la joie, la joie, tu te dis, Paul est à Bora Bora, dans une maison sur pilotis. Il a même un petit mojito à la main. Je ne sais pas si... Et tu as l'impression, et c'est là au contraire que le texte prend tout son sens, parce que Paul, peut-être que vous ne le savez pas, mais alors qu'il écrit Philippiens, il est en prison. Il est en prison, et si vous mettez la diapositive, la prison, ce n'est pas comme on peut connaître, déjà, ce n'est pas facile aujourd'hui, mais la prison, c'est ça. Paul était loin d'être à Bora Bora. Paul était un érudit, Paul était un homme de lettres, était un homme qui avait une vie prestigieuse. Et au lieu de se retrouver à travers les grands de ce monde, il se retrouve en prison. Si tu mets la prochaine aussi, et tu vois, c'est la condition dans laquelle Paul a écrit le texte. Et juste pour vous mettre un petit peu l'idée, imaginez, vous êtes assis ici, on a du plaisir, c'est agréable, mais Paul a donné de sa vie d'une façon, il a tout abandonné, sa richesse, tout ce qu'il était, sa notoriété, poursuivre et enseigner les enseignements de Jésus. Et Paul, son désir était, sa pensée était d'aller à Rome et d'aller faire la plus grande croisade d'évangélisation. Trouvez-vous que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on peut dire que franchement, Paul est charnel et il veut juste des choses pour lui? Paul a le cœur de Dieu et selon sa pensée, et sa compréhension, c'est de dire, on va aller à Rome, on va remplir un stade, et là, je vais prêcher l'Évangile, et là, il y a des centaines de personnes qui vont se convertir. Est-ce que vous voudriez que Paul a une bonne idée? Qui va du côté de Paul? Ben, on est dans l'erreur, parce que Dieu avait une autre idée. Et c'est tellement fascinant de voir comment cet homme-là, dans sa prison, aurait pu se plaindre, aurait pu murmurer, aurait pu dire, « Seigneur, moi, je voulais te suivre, puis je suis dans une prison. Je voulais proclamer la parole et je suis dans une prison. » Et savez-vous qu'est-ce qu'il a écrit, Paul? Vous lisez dans Philippiens, chapitre 1, verset 12, ça dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Et ça dit dans une autre version, Tom, « Ce qui m'est arrivé, au lieu d'aller dans le stade, annoncer la parole, être dans la prison, éloigné, tout seul, négligé, a grandement contribué à l'Évangile. Et pourquoi Paul a pu écrire de se réjouir? Pourquoi Paul était capable je ne lasse pas de vous dire, réjouissez-vous, la joie du Seigneur est notre force? Parce que Paul a choisi de ne pas regarder à sa perception des événements. Pour lui, c'était Rome, le stade. Mais dans la prison, il a dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer là? » Et c'est comme ça qu'à travers ce choix-là de regarder plutôt pas aux événements, mais de regarder, de les percevoir comme Dieu les voit. Et Paul a eu raison. Parce que Paul a été en captivité pendant, il était enchaîné dans ses liens 24 heures sur 24 et il y avait des gardes très prestigieux. Et juste en termes de conversion, il a évangélisé en changeant de garde à tous les 4 heures, plus presque 3000 personnes durant son emprisonnement. Amen. Lui, il pensait que c'était le stade, mais Dieu a emmené les gens à lui. Et encore plus, parce qu'il était un prisonnier prestigieux, il avait la garde royale qui le surveillait. Et quand tu regardes le texte, ça dit que Paul, en témoignant à ces gens-là, il a témoigné, il y a des gens de la maison de César, qui était l'empereur, qui était le souverain qui dirigeait, a été converti. Ça dit dans Philippiens, si vous suivez avec moi, chapitre 4, verset 22, ça dit « Tous les saints, et c'est Paul qui finit son épître comme ça, « Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. » Paul pensait que son idée était la meilleure, mais dans sa prison, il a regardé les choses dans la perception de Dieu. Et il y a plus de gens qui ont entendu l'Évangile dans la prison que dans le stade. Et il a eu accès à des personnes d'influence. Pour garder sa joie, regarde ta situation dans la vision de Dieu. C'est peut-être pas ce que tu penses, mais Dieu a un meilleur plan que toi, tu peux imaginer. La dernière chose, Paul, il a vu. Vous savez, quand il dit dans Philippiens 1,14, ça a plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile, mais il rajoute, « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Suivez-moi, c'est extrêmement profond. Lui, un homme, dans un stade, peut parler une fois à des centaines de personnes. Dans sa prison, 3000 gardes qui défilent et il a accès à la garde royale dont certains se convertissent et peut influencer César. Mais plus que ça, parce que les gens le voient, les croyants voient son attitude dans la prison, ils sont encouragés parce qu'ils disent « Notre leader, Paul, s'il est capable de garder la foi, d'évangéliser, eh bien moi je peux le faire quand je suis complètement libre. » Et là, ce n'est pas un homme qui prêche la parole, c'est des centaines et des centaines de croyants encouragés par les liens, commencent à partager la parole de Dieu. C'est beaucoup plus fort qu'une seule personne. Mais il faut que tu choisisses, tu peux décider « Moi, Seigneur, c'est comme ça que je vois les choses. » Ou comme Paul de dire, « Ouais, Dieu, tu peux faire quelque chose de plus dans ma situation. » Et encore plus, savez-vous que vous, dans votre situation, si vous choisissez la joie, vous êtes la plus grande campagne d'évangélisation. On cherche des grandes campagnes d'évangélisation, mais des femmes, 250 femmes dans ce lieu, dans une situation difficile, qui choisit la joie. Vous arrivez au travail, les gens connaissent votre situation, ils te disent, « Maître, t'es rayonnante, Raymond. Tu as traversé la maladie. » Je ne sais pas, je dis, vous comprenez juste une illustration. « Tu as traversé la maladie. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux aller? Comment tu peux avoir cette joie-là? » Et là, tu peux commencer à dire, « Oui, c'est difficile, mais Dieu me donne sa grâce. Dieu me fortifie. Je m'appuie sur lui. » Et les gens au travail vont dire, « Je veux ce que tu as. » Encouragés par mes liens, ils commencent à partager. Vous êtes une source d'encouragement. Vous êtes une grande prédicatrice en puissance. Dis à ta voisine, « Tu es une grande prédicatrice en puissance. » Vous riez, mais c'est vraiment ça. Paul, je choisis la joie quand je perçois les choses comme Dieu les voit et les pense. Dieu peut faire au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer avec ce que vous vivez. Et la plus grande bénédiction, savez-vous quoi? C'est que Paul, c'est dans cette prison-là qu'il a écrit le trois quarts du Nouveau Testament. Il a écrit Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Corinthiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée. Et il est encore pour nous une source d'influence des milliers d'années plus tard. Je perçois ma situation non pas comme moi, mais comme Dieu la voit. Paul pensait avoir une influence limitée à un temporel et Dieu avait une influence éternelle pour lui. Je veux te susciter la foi. La foi, simplement, c'est que la foi que tu ne vois pas, Dieu est en train de travailler en arrière-scène. Dieu est en train de faire quelque chose. Toi, tu penses ça et Dieu veut faire ça. Marie et Marthe demandaient une guérison. Et elles ont eu une résurrection. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Des fois, tu demandes quelque chose de petit et on ne lui passe rien. Et Dieu dit, attends, je suis en train de faire plus grand dans ta vie. Je vais encore faire toi des choses plus grandes que tu ne peux pas imaginer. Je vais éclater si vous ne comprenez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère vous communiquer du mieux que je peux parce qu'aujourd'hui, c'est agréable. Aujourd'hui, on rit. Aujourd'hui, on est influencé. Mais quand tu es face à l'ennemi, quand tu es face à la douleur, quand tu es face à une prière qui ne répond pas, puis des fois, ça va encore pire que ce que tu pensais, c'est là que tu décides. Un, je choisis la joie. Et deux, je ne me laisserai pas abattre par ce que je vois. Dieu a des bons plans et meilleurs pour chacune d'entre nous. Et il dit, Paul, alors que je viens à la fin du message, il dit dans Philippiens chapitre 1, verset 19, « Car je sais, peu importe ce qu'il vit, je sais que cela va tourner à mon salut et à mon bien. » Et si j'ai appris quelques leçons de sagesse dans ces quelques années difficiles, c'est de voir plusieurs années, mais les dernières, c'est que peu importe ce que je vis, je le sais, que je sais que Dieu va le tourner pour des choses plus grandes que ce que je pense. Et je peux vous le garantir pour chacun de vos vies. Et Paul a dit, je sais que ça va tourner à mon bien grâce à vos prières. Et nous sommes ici pour prier. On a tous les instruments pour être comme Paul. Grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, grâce à l'aide apportée par l'Esprit de Jésus-Christ. Et juste en terminant, j'aimerais qu'on se prépare pour la vidéo, car je sais, la foi simplement, c'est Abraham qui a changé sa perception. C'est Abraham qui a, peu importe sa saison, c'est une Rahab qui a été obéissante et fidèle. Mais c'est un Paul qui, peu importe sa prison, peu importe son rêve, peu importe ce qu'il pensait, il a terminé, il dit, je sais que tout ce qui m'arrive va tourner à mon bien. Dis à ta voisine, tout ce qui t'arrive, Dieu va le tourner pour ton bien. Et alors qu'on se prépare à la vidéo, quand j'étais en octobre, j'étais à Mulhouse, et en novembre, j'ai passé de Mulhouse, en octobre, j'étais à Montluçon, et en novembre, je suis allée chez Porte Ouverte, chez Pasteur Samuel Peter Schmidt, pour une conférence extraordinaire. On était 1200 femmes ensemble. Et après ça, le dimanche matin. Et vous savez, j'étais, comme je vous ai raconté ce matin, où je priais pour mon fils. Et quand j'étais dans l'avion, l'avion a décollé et j'étais rendue à 30 quelques mille pieds d'altitude. Et je pensais à la conférence qu'on avait eue, tu vas te souvenir, Raymond. Le matin, j'avais apporté la parole, mais l'après-midi, ils ont fait comme une après-midi de talent. Il y avait des femmes qui chantaient et tous les arts ont été exprimés. Et il y avait une jeune fille, si on peut mettre la diapositive. Oh, ben attends, on va laisser pour eux. On va regarder sur la vidéo. Il y avait une jeune fille qui faisait de la peinture et elle a fait du speed painting. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais pendant qu'elle peignait, c'était magnifique, carrément. Elle peignait, tu regardais, tu n'avais aucune idée. Puis on se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Puis en l'espace de 1 minute et demie, 2 minutes, elle a tourné la toile et tu as vu Jésus sur la croix. Waouh! Hein? On était vraiment impressionnés. Moi, j'étais debout, j'applaudissais et j'aurais tellement voulu filmer ce moment, mais j'étais vraiment pas très techno, donc j'ai passé à côté du moment. Mais dans cet avion-là, en me retournant chez moi, Dieu parle de toutes sortes de façons. Il parle d'une façon, tantôt d'une autre. Il parle par la parole, il parle en déposant des pensées dans nos cœurs, et j'espère qu'il va vous en déposer encore demain et tout le reste. Et quand je regardais le Seigneur, il me parlait, puis je priais pour ma maison, et il me disait, c'est comme si je voyais cette jeune fille-là qui faisait la toile. Puis le Seigneur, il me dit, cette fille-là a fait des traits de crayon. Elle peint, mais tu n'as aucune idée de ce qu'elle est en train de faire. Il dit, tu es comme cette femme-là. Je suis en train de faire des traits de crayon dans ta vie, comme Paul. On n'a aucune idée qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Mais à un moment donné, dans le kairos de Dieu, Dieu prend la toile et la tourne et tu comprends ce qui sait à quoi ça sert. Et voulez-vous voir une vidéo d'un speed? Vous allez voir. Je veux que vous regardiez cette dernière vidéo avec les yeux de la foi. J'avais juste quelques minutes, mais si je peux vous laisser avec les jours et les années qui sont devant vous, que ce message puisse vous percuter. Et que quand tu vis une situation et que tu as l'impression que c'est que des traits de crayon, puis que tu n'as pas l'impression que ça ressemble à quelque chose. Comme Paul, dans sa prison, il aurait pu dire, « Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? » Mais lui, il a dit, « Je sais que ça va tourner à mon bien. » Et c'est ce que Dieu a fait. Et pendant que Dieu, on a l'impression que c'est des traits de crayon, un jour, et prends-le par la foi, il va tourner la toile de ta vie. Et tu vas dire, ah, c'est pour ça que je vis ces choses. On va regarder, vous allez la voir, la vidéo. Et c'est en anglais, mais vous allez comprendre l'idée. C'est un invité qui est un show, Anderson, et le peintre va faire cette toile-là en quelques minutes. Et vous allez voir le résultat final. Ne vous en faites pas, ça va marcher, on l'a pratiqué. Je sais que ça va tourner à mon bien. J'ai la foi. J'ai les meilleurs à l'arrière. Et on peut les applaudir, tous les gens, les hommes à la caméra, toute l'équipe technique. Pendant qu'elle se prépare. Ah, oh, voilà. Oh, voilà. Elle le présente, c'est le peintre en question. Il dit qu'il va faire une peinture en quelques minutes, une minute et demie. Est-ce que vous croyez? Essayez de deviner. Je vous lance un défi. Est-ce que vous voyez quelque chose? Wow, il y en a qui disent oui, vous êtes bonne, franchement, parce que pour ça m'a pris vraiment. Non, je sais, vous voyez pas, c'est très compliqué. Une minute. En tout cas, eux, ils n'ont pas l'air à savoir ce qu'ils font, hein? Et puis, ça vient? Imaginez Dieu qui est en train de peindre quelque chose. On ne le voit pas faire, mais... 15 secondes! Et... 5, 4, 3... 2, 1. On peut l'arrêter. Saisissez-le par la foi. Que Dieu, vous êtes peut-être à quelques traits de crayon, que Dieu tourne la toile de votre vie. Amen. Quelques traits de crayon. Pendant que les musiciens s'approchent, prenez-le. Et juste en terminant, vous savez, on parle d'un peintre, on parle de peinture, mais une vraie histoire, Dieu le fait. Je veux vous raconter l'histoire d'une femme qui s'appelle Sonia Massot, tu vas la connaître, Justine. Et c'est une femme qui était mariée, elle avait des beaux jumeaux, des grands-enfants. Et il y a 7 ans de ça, sa vie s'est complètement écroulée. Son mari était violent, étaient les deux chrétiens dans l'église. Oh, la photo. Et attendant avant de mettre les autres images. Et elle dit dans son témoignage, il y a 7 ans, ma vie a basculé, ayant une famille, un mari, une maison, une bonne situation financière et des rêves à accomplir. Et en peu de temps, pendant que les musiciens s'approchent, on peut jouer le piano, en peu de temps, tout a disparu. Mon conjoint a quitté le foyer familial, la maison a été vendue, je suis retrouvée seule avec 2 adolescents en colère à soutenir financièrement leurs études et ma maison. En peu de temps, tout s'est effondré autour de moi pendant que ma famille, maison, situation et mes rêves s'écroulaient. Et pendant cette période sombre, je ne pouvais rien voir au-delà de la noirceur. Je ne pouvais voir aucune issue à ma destinée, à mes rêves, à mes désirs. Mon rêve de faire du ministère était maintenant impossible alors que j'avais commencé les études bibliques. J'ai dû tout arrêter. Comment une femme divorcée, rejetée, peut exercer, accomplir un ministère? Et dans mon cœur, il n'y avait aucune possibilité à ce rêve. J'avais fermé la porte à tout miraculeux. Et de ce divorce-là, de cette séparation-là, c'est des coups de crayon, vous êtes d'accord avec moi, qui ne fait aucun sens. Qu'est-ce que, Seigneur, tu peux faire? Et j'ai à cœur une parenthèse, où il y a des femmes, vous aspirez à un ministère, à accomplir des choses pour Dieu. Et vous dites, comment, Seigneur, comment je peux accomplir ça? Comment je peux, dans ma vie, moi, comme femme, comment je peux arriver à faire le ministère? Elle a dit, malgré tout, malgré j'ai tout perdu pour Dieu, Dieu était la seule chose dans ma vie et je ne bougerai pas tant que la promesse ne s'accomplirait pas dans ma vie. Et elle raconte qu'elle est allée aider un de nos pasteurs, qui est le pasteur des missions à l'Église Nouvelle Vie, qui est en train de perdre son épouse d'un cancer. Elle a dit, je ne peux peut-être pas faire le ministère à l'école biblique, mais je vais aller servir auprès de cette femme-là. Elle l'a nourrie, emmené des petits plats, l'a lavée, prenait soin d'elle, elle l'a emmenée jusqu'à la mort, et cette femme-là est décédée. Et dans son service, pendant que tout était perdu pour elle, dans son divorce, dans ses problèmes financiers, dans la rébellion des adolescents, elle a commencé à parler au pasteur des missions. Puis elle a dit, j'ai à cœur, mon rêve, c'était d'aller à l'école biblique puis faire la mission. Et finalement, cet homme-là l'a mis en contact. Et elle, à travers les années, elle est restée fidèle à Dieu. Et 7 ans plus tard, malgré les coups de crayon qui ne faisaient pas de sens, Dieu a élevé ces femmes-là, cette femme-là, et cette femme-là est la responsable maintenant des missions à l'Église Nouvelle Vie. Nous sommes allés avec elle, elle va en Haïti faire des cliniques médicales, aider des enfants. Mais regardez ce qu'elle écrit à la fin de son témoignage. Elle dit, « Ce que je croyais mort et enterré, Dieu l'a fait revivre. » Je ressentais cette nuit, on ne dort pas beaucoup quand on est en France. Et je ne dors pas beaucoup quand je suis ici. Et vraiment, je ressentais que certains d'entre vous, vous avez un rêve, puis vous avez l'impression qu'il est mort. Vous avez quelque chose que vous pensiez faire pour Dieu, d'une telle façon, mais Dieu va le faire ressusciter, d'une façon que tu ne peux pas penser. Elle dit, ce que je croyais mort et enterré, Dieu l'a fait revivre. Là où je croyais qu'il n'y avait plus aucune possibilité, il a ouvert un chemin. Il est le Dieu de l'impossible. Cet été, on peut mettre les images. Regardez, c'est elle. Elle dit, cet été, je me suis rendue au Pakistan où Dieu a ouvert la porte en ma faveur. Une femme divorcée qui va prêcher au Pakistan. Pensez-vous que ce n'est pas une toile tournée, ça? J'ai prêché à une foule de plus de 2000 personnes. Jamais dans mes moments les plus sombres, je n'aurais pu imaginer penser à une telle chose, que Dieu pourrait accomplir mon rêve de cette façon. Je suis de retour de l'Inde où Dieu a ouvert les portes. J'ai apporté la parole à une foule de musulmans et hindous conduisant 60 personnes à Christ et prêchant à une colonie de lépreux. Si vous pouvez regarder la prochaine diapositive. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui ressuscite ce qui est mort. Il est le Dieu qui peut donner la vie à tes rêves, qui sont morts comme il le fait pour toi. Amen. Et j'aimerais juste qu'on puisse terminer en se levant ensemble et on va terminer avec un chant.